Alors, mon avenir, c'est l'Europe ?
Oui, ton avenir, c'est l'Europe. Mais on te l'a si peu dit. Et on s'est tellement habitué. On voit pas à quel point l'Europe est une invention incroyable. Pour une fois qu'on me donne la parole, pour que moi je puisse porter l'Europe plus loin, pour qu'elle aide la France et pour qu'elle aide le monde, et bien que je fasse l'effort d'oublier mes mécontentements, puisque c'est pas le sujet, puisque ça changera rien, et que oui, je dise, je veux l'Europe, j'ai envie d'Europe, je vais aider l'Europe, l'Europe a besoin de moi et j'ai besoin d'elle.
Bon, voilà qui est clair.
Bah alors, Daniel Mermet, à quand à la base si j'y suis en direct du festival ? Les journalistes et les présentateurs s'y ruent à Cannes, à l'aise comme des poissons dans l'eau parmi les beautiful people du cinéma et les soirées branchées sur la croisette. Paraît que là-bas, on fait avancer l'Europe. Par exemple, avec Carole Bouquet et ses vignobles en Sicile, ou avec Depardieu, ses vignes en Espagne et ses projets hôteliers en Ukraine. Et puis quand les caméras tournent et que les micros sont ouverts, les acteurs français posent leur coupe de champagne et ils vendent leur couplet sur la Constitution. Tout va bien pour eux, merci, surtout que rien ne change. Ils votent oui, évidemment. Ça va moins bien pour les Français et pour les Allemands ? Ah, mais de ça, on n'en parle pas à Cannes. Vous avez dit artistes engagés ? Ils sont bien au-dessus de ça, juste à côté de ceux qui peuvent leur être utiles pour que leur champagne continue de couler à flot.
Très rapidement, dans ton émission, ta dernière émission a été très intéressante sur les lobbies. Quelqu'un a parlé brièvement de European Roundtable, la table ronde européenne. J'aurais bien aimé qu'il y ait plus de développement parce que je pense, à mon avis, que ça mériterait une émission entière. Ce European Roundtable, c'est le syndicat des patrons des multinationales européennes. Hein. Or, ce European Roundtable joue un rôle fondamental. C'est peut-être le plus puissant centre de pouvoir en Europe. Hein. Et il communique de façon très légale avec la Commission européenne au sein d'une institution qui s'appelle Tabou. Je pense pas que tu en aies parlé. Ça s'appelle T-A-B-O. Hein. C'est pas, ça s'invente pas. Hein, Tabou. Très régulièrement, ils ont des consultations et en fait, eh bien, la Commission européenne vient prendre ses ordres des multinationales au sein de cette commission. Je signale aussi que le European Roundtable est très influencé par un autre syndicat patron encore plus puissant qui s'appelle American Chamber of Commerce, qui est le syndicat des multinationales américaines. Hein, car tout communique, ça se passe par le système des vases communicants, tant et si bien qu'on pourrait dire que les véritables décisions se prennent à New York ou à Washington, ce qui est logique, puisqu'après tout, les décisions militaires se prennent par l'intermédiaire de l'OTAN au Pentagone. Hein. Donc j'aimerais bien aussi que tu parles de ce tabou un jour ou l'autre, c'est-à-dire ce qui s'y passe. Car tu sais que un bon nombre de directives américaines ont en fait été rédigées en aval par le European Roundtable, la table ronde européenne, et elles se retrouvent mot à mot transcrites littéralement ensuite dans les directives européennes, et tout ça s'est passé au sein du tabou. Merci Daniel, j'aimerais bien que tu fasses une émission là-dessus. Au revoir, bravo pour ces émissions, elles sont sensationnelles. Au revoir.
Alors les boîtes à idées libérales gagnent Bruxelles. Il faut lire idée au singulier, car si vous écoutez le discours, il n'y a qu'une seule idée, mais répétée des milliers de fois et un maximum de puissant. La répétition remplaçant l'argumentation et devant éliminer toute réflexion. L'idée, pas de loi, améliore la vie. Ben voyons. Le libéralisme, c'était pendant la préhistoire, quand il n'y avait pas d'État pour embêter le monde des affaires. C'était chouette alors la loi de la jungle, et tout le monde vivait mieux avec des progrès rapides. Ça, c'est le credo libéral. Après, catastrophe, sont nées les civilisations, qui se sont toutes et toujours accompagnées d'États et de règles. Mais les libéraux d'aujourd'hui n'évoquent jamais ce développement économique et culturel. Et le 19e siècle, une grande avancée libérale aussi. Vous savez comment les ouvriers étaient heureux alors, sans congés imposés par l'État, sans droit de grève reconnu par l'État, sans retraite ni santé organisée, les enfants au travail dès 5 ans. Ah, la belle époque libérale que c'était. Par contre, ensuite, au XXe siècle, quand des lois sociales ont été mises en place, on a tous constaté l'effondrement de la production et de la richesse en Occident, n'est-ce pas ? Quand on pense que c'est cela le discours libéral aujourd'hui dominant, eh bien, ça donne à réfléchir. Comme quoi, plus on raconte de grosses conneries avec beaucoup d'argent, et mieux ça passe. Boîte à idées, boîte à décervelées, oui. La droite des bovidés. Allez, salut ! Eh bien, voilà, petit bout de phrase entendu ce matin à 7h10 sur les ondes de France Inter. Le pire, ce serait de décevoir la bourse, fermez guillemets. Voilà.
J'écoute pas souvent votre émission, sous-entendu parce que je bosse, c'est pas comme vous, bande de gauchistes. Et j'étais absolument résolu à voter oui, mais j'en ai tellement assez du terrorisme intellectuel des partisans du oui, que, en fin de compte, je crois que je vais voter non. Voilà.
Oui, bonsoir, Nelly de Rodez à l'appareil. Je voulais vous dire que près de 1000 personnes étaient présentes le 26 mai à Rodez pour un meeting pour le non à la Constitution, qui autour de Mélenchon, Guessot et Beauvais, ce qui est une performance pour Rodez dans l'Aveyron. Le lendemain, dans la presse, aucun écho ni analyse. Dans toute la presse locale, renseignements pris. Les rédactions ont eu consigne de ne pas couvrir l'événement. Je pose simplement la question, où est la liberté de la presse? Pourquoi une telle censure? La France n'est-elle pas une démocratie? Merci, bonne soirée à tous, au revoir.
Petit lexique Chirac. Fausse facture de la mairie de Paris. Marché truqué des lycées d'Île-de-France. HLM de Paris. Emploi fictif du RPR, imprimerie municipale de la SEMPAP, faux électeurs du 3e, faux électeurs du 5e, frais de bouche, château de Biti, voyage en avion payé en liquide, sa femme, Bernadette, qui s'est un peu servie dans les réserves du patrimoine, et c'est cet homme-là qui veut me faire la morale sur le « oui » responsable, et ben ça sera non.
Alors qu'on est à 11 jours du référendum sur le traité constitutionnel européen, il serait intéressant de comprendre comment le néolibéralisme a conquis le monde. Comment il est devenu la doctrine partagée par les dominants de toute la planète. Il s'est imposé à un tel point qu'on veut aujourd'hui l'inscrire, le libéralisme, dans la Constitution européenne. Pour découvrir comment l'ordre libéral s'est imposé au monde, venez écouter ce soir Serge Halimi, auteur du Grand Bond en arrière, à Saintes, en Charente-Maritime, salle Saint-Onge, pour une conférence. C'est ce soir, à 20h30. À bientôt.
Et ben voilà, Serge Halimi sera ce soir à Saintes, et il va être auparavant, à l'instant même, dans la basse si j'y suis. Pourquoi donc? Aujourd'hui, le journal Le Monde, le quotidien Le Monde, s'interroge, les médias favorisent-ils le oui? Question, la réponse depuis des semaines et des semaines, au moins sur le répondeur, l'euro-pondeur de là-bas si j'y suis, c'est oui, 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 les médias favorisent le oui. Et aussi bien qu'on ne passe que très peu de ces messages, tellement nous en avons de messages offusqués, indignés, qui protestent contre le oui-ouisme des médias, et y compris, et à commencer par le oui-ouisme de France Inter, puisque ceux qui laissent des messages dans l'après-midi ont généralement écouté le 7-9 de France Inter. Aujourd'hui, le journal Le Monde s'intéresse à ce traitement de la campagne qui suscite des polémiques politiques effectivement au sein des médias. Il y a une pétition initiée par des journalistes de l'audiovisuel public et relayée par des syndicats, relayée par Attac, qui une pétition qui a été remise mardi au Conseil supérieur de l'audiovisuel, protestant contre le déséquilibre entre les défenseurs du oui et les défenseurs du non, ou les partisans du oui et les partisans du non. Comment ça se passe et pourquoi est-ce qu'il y a ces protestations et visiblement ce qui est perçu comme un déséquilibre? Eh bien, on a posé la question à Serge Halimi, que vous connaissez, qui est journaliste au Monde Diplomatique, qui est l'auteur dans le numéro du Monde Diplomatique de ce mois d'un long papier sur les médias et la campagne sur le référendum, qui est aussi, cette auditrice le disait, l'auteur d'un livre dont nous avions fait écho avec Serge Halimi, Le Grand Bond en arrière. Et puis il est accompagné de Pierre Rimbert, qui est sociologue et qui est collaborateur d'un petit journal qui s'appelle PLPL, pour lire pas lu, un petit journal qui fait grand bruit, notamment dans la critique des médias. Voilà, ils ont été interrogés et interviewés par notre Guive Anquetil. C'est jusqu'à 18h, là-bas si j'y suis. Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, Guy Vanctil, Serge Halimi et Pierre Rabhaer.
Flight number 2, arriving from New York.
Maintenant, du référendum, c'est dans 4 semaines, quel que soit le président.
Oui, naturellement, on n'a pas besoin de justifier ce oui. C'est ce qu'on pensait, même sans le penser vraiment, ceux qui appartiennent à cette élite médiatique et liée très souvent à l'élite politique pour qui, évidemment, oui, il faut entériner et dire oui à ce projet de traité, à ce traité constitutionnel européen. Pourquoi oui, parce que le nom, c'est le chaos. Le nom, c'est la guerre. Le nom, c'est le déclin. Si c'est non, il va pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits, au moins, et puis ça continuera comme ça. C'est aussi simple comme ça. Comment fonctionne cette évidence dans l'esprit de ceux qui, tout naturellement, ont affirmé qu'on ne pouvait pas faire autrement, qu'il n'y avait pas d'autre voie possible, pas d'autre alternative, évidemment, que ce oui. Eh bien, il y a derrière cela des attendus et des ressorts d'ordre sociologique et d'ordre idéologique. Et c'est ce que Serge Halimi et Pierre Rimbert vont essayer de démonter et démontrer sous vos yeux à l'instant même dans la basilique.
Quand un chef gradé militaire à un soldat pose une question, le soldat fait bien mieux de se taire que de répondre oui quand faut dire non.
Même à chaque fois qu'un chef me cause, je dis comme lui, je réponds oui. Et je vais même te dire une bonne chose, c'est que ça m'a toujours réussi.
Alors si tu dis que tu as compris, tu dis oui.
Oui, j'ai dit oui.
Si tu dis que tu n'es qu'un abruti, tu dis oui.
Oui, j'ai dit oui.
Tu dis oui.
Oui, j'ai dit oui.
Eh ben, t'as raison, mon vieux. Parce que c'est vrai. Faut pas dire non quand faut dire oui. Dis que t'as compris, t'as pas compris.
Le tout n'est pas d'avoir compris, c'est de laisser croire qu'on a compris.
Eh bien, moi, si j'avais compris que tu n'avais pas compris, à présent, nous ne serions pas pris. J'aurais compris, moi. T'as compris?
Non.
Eh ben, tant pis. Un marin, en toutes circonstances, doit conserver sa dignité. Dit oui lorsque c'est oui qu'il pense, dire non si c'est la vérité.
Ben moi je préfère, c'est plus facile, dire toujours oui, car autrement, on me dit que je suis un imbécile, et quelquefois, on me fourre dedans.
Qui dit qu'une vache, c'est une fourmi, tu dis oui?
Oui, j'ai dit oui.
Ah, tu dis que des patates, c'est des salsifis, tu dis oui?
Oui, j'ai dit oui.
Et si tu dis qu'un âne, c'est ta photographie, tu dis oui?
Oui, j'ai dit oui.
Eh ben, t'as raison, mon vieux, parce que c'est vrai. Faut pas dire non quand faut dire oui, ni que t'as compris, t'as pas compris.
Le tout n'est pas d'avoir compris, c'est de laisser croire qu'on a compris.
Eh ben, moi, si j'avais compris que tu n'avais pas compris, à présent, nous ne serions pas pris. J'aurais compris, moi. T'as compris?
Non.
Eh bien, c'est pas la peine que je continue à t'expliquer, tu comprendras jamais.
Voyons, j'ai compris.
Pourquoi tu dis que tu as compris quand tu n'as pas compris?
Alors, bonjour Serge Halimi, bonjour Pierre Rimbert. On vous a invité tous les deux aujourd'hui pour nous parler de la campagne pour le référendum, un sujet qui fait de plus en plus de bruit, c'est-à-dire pas tellement le débat sur le référendum européen, mais le débat sur le débat, à savoir comment sont retranscrits les enjeux et toutes les questions soulevées par ce référendum et sa ratification le 29 mai prochain. Et on a presque envie de prendre la défense de nos confrères journalistes qui sont attaqués de tous les sens. Alors au début, c'était votre article qui a ouvert le bal dans le monde diplomatique, Serge Halimi, les médias en tenue de campagne européenne, mais ça a été aussi, là je vois la revue Politis qui parle de médias et référendums, la rengaine des bénis oui-oui, Marianne, la campagne référendaire aggrave la crédibilité des médias, le canard enchaîné, le référendum commence à faire des dégâts dans les médias, et l'humanité, propagande d'État pour le oui.
Il y a eu aussi l'émission Arrêt sur image, il y a eu aussi le travail depuis des mois, voire des années, du journal PLPL.
Mais ça a été aussi mené par Acrimède, et les Échos qui parlent du camp du non qui s'en prend aux médias.
Oui, je pense qu'en un sens, les journalistes qui sont critiqués ont un peu raison d'être désemparés, parce que ce qu'ils font à l'occasion de cette campagne n'est que la version, disons, un peu plus visible, un peu plus sonore, un peu plus remarquable de ce qu'ils font à peu près tous les jours sur tous les sujets. Et je crois que l'une des premières choses à dire à propos de cette campagne, quand on mesure les temps de parole des uns et des autres, c'est que cette campagne ne commence pas il y a 2 mois. Ces thèmes, cette défense du libéralisme, cette défense de l'Europe qui permettra de débarrasser la France de ses archaïsmes, etc., etc., c'est un peu la petite musique qui a été serinée depuis des années et qui fait qu'un certain nombre d'arguments des partisans du oui ont naturellement beaucoup moins besoin de temps pour être développés, puisqu'ils s'inscrivent déjà dans une conscience qui est tout à fait préparée à les accepter. Et d'une certaine manière, on peut dire que c'est un miracle que les arguments des partisans du non aient un tel écho, compte tenu à la fois de la disproportion dont ils sont victimes, et du fait que toute l'explication préalable qui permettrait de mieux comprendre les arguments qu'ils avancent n'a pas été faite à leur avantage.
France Inter, 17 mai 2005.
Gérard Filoche.
Il y en a assez des 80% de médias qui tous les matins nous disent lundoui, mardoui, mercredoui, jeudoui, vendredoui. Il y en a assez de cela.
Alors, l'envie des Français à voter oui ou non au référendum du 29 mai prochain, voilà qui intéresse évidemment les sondeurs et l'Institut CSA.
Europe 1, 18 mars 2005, Laurent Ruquier.
Publié par Le Parisien, nous révèle donc le fameux 51%, nouveau chiffre, du non dans cette course au référendum. Alors, regardez Gérard qui sourit.
Je trouve simplement logique que le non progresse, parce qu'il y a une telle pression pour qu'on vote oui. Je lisais des chiffres sur le nombre.
Ah ben maintenant, ça va être le contraire.
Non, mais peut-être.
Maintenant, moi, je suis ravi de faire partie du côté des minoritaires.
Oui, mais attendez.
Le oui était majoritaire. Maintenant, c'est le non qui l'est.
Vous faites pas encore partie des minoritaires en temps de parole dans les médias ou dans les journaux.
Mais non, c'est pas vrai. Alors ça, c'est un argument qu'utilisent tous ceux qui disent non. C'est pas la vérité. On vous entend tous les jours.
Oh, mais arrêtez
non à la Constitution et au référendum.
Mais je me pose des questions. Mais c'est incroyable.
Alors, c'est pas vrai. On entend que vous tout le temps, tous les jours. Enfin, arrêtez de utiliser cet argument,
Mais c'est le même argument que Le Pen, c'est le complot médiatique, mais il n'y a pas de complot médiatique, les temps de parole, on les a mesurés,
c'est la vérité.
Pierre Rimbert, vous avez un état des lieux des prises de parole pour le oui ou pour le non?
Oui, avec l'équipe de PLPL, on a essayé de comptabiliser les invités du matin de plusieurs émissions phares de la radio. Et bien, commençons par France Inter, puisque nous sommes sur cette antenne, et par l'émission Questions directes. Alors du 1er mars au 10 mai, on a dénombré 25 invités qui étaient clairement identifiés comme des défenseurs du oui, et 7 invités clairement identifiés comme des défenseurs du non. Donc 7 non pour 25 oui. C'est une proportion assez dissymétrique. On retrouve à peu près la même empire sur Europe 1, hein, la station de Arnaud Lagardère. Entre le 7 mars et le 10 mai, Jean-Pierre Elkabbach, le nouveau directeur de la station, a interrogé 37 oui-ouistes pour 9...
Vous voulez dire partisans du oui.
Pour 9 opposants au traité. Donc là, la proportion est de 1 non pour 4 oui. Et sur RTL, on trouve presque l'équilibre, puisque cette fois, la proportion est de 2 oui pour 1 non. À cela s'ajoute le fait que l'équipe d'Arrêt sur image, l'émission de décryptage des médias diffusée par France 5, a calculé que la proportion d'intervenants favorables au oui invités sur France 2, France 3, TF1 tourne autour de 2/3, 1/3. Il faut se rappeler que c'était à peu près la même chose en 1992 lors du débat sur le référendum de Maastricht. Deux semaines avant le scrutin, qui se déroulait le 20 septembre 92, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, était obligé d'admettre qu'au cours de l'été, et je cite le CSA, le oui avait disposé d'un temps d'antenne supérieur au non, 46% de plus sur TF1, 53% de plus sur Antenne 2, et 191% de plus sur France 3. Donc là, déjà, 92, deux poids, deux mesures. Et ça recommence aussitôt après, en 1995, la médiatisation des grèves du mouvement social de novembre-décembre. C'était il y a 10 ans, mais ces grèves inspirent encore à Éric Le Boucher, hein, rédacteur en chef du Monde, une répugnance telle qu'en octobre 2004, il n'y a pas si longtemps, il écrivait, je le cite, « Le débat économico-politique est bloqué en France depuis les grèves de 95, dont on ne dira jamais assez le mal qu'elles ont fait. » Voilà, cette disproportion, vous allez la retrouver au fur et à mesure des conflits sociaux. Ce sera la même en 2003, on pourra y revenir tout à l'heure.
Dis-moi oui ou non. Mais si c'est oui, c'est vraiment très bon. À choisir entre oui et non. Vaut mieux oui que non. Dis-moi oui ou non. Mais si c'est oui, vraiment c'est très bon. À choisir entre oui et non.
Cette chanson a été composée en 1958 à l'occasion du référendum instituant la communauté.
Et la traduction du oui et du non. Et visiblement, une, si on écoute Pierre Rimbert et Serge Halimi, une tradition aussi de déséquilibre entre les tenants du oui et les tenants du non. Selon le numéro du journal Le Monde, de se dater de jeudi, selon les relevés publiés mercredi par le CSA pour les interventions à la télévision dans la période du 4 avril au 13 mai, celles-ci ont été favorables au oui dans la proportion de 57 pour le oui, de 43 pour le non. Donc ça donne des résultats qui vont dans le sens indiqué par nos invités et aussi par Arrêt sur Image qui, selon lesquels, selon cette émission, selon les collaborateurs, l'équipe de cette émission, 2/3 des interventions seraient favorables au oui et 1/3 pour le non. On voit comme un certain déséquilibre.
Bref, les Français très sceptiques, la plupart du temps, avant même de savoir d'ailleurs ce qu'il y a dans cette Constitution.
Quelle stratégie pour la pour faire gagner ce oui au référendum, Martine Aubry?
Juste une petite remarque, Marie-Georges Buffet, mais parce qu'il faut être qu'on soit précis,
oui, je suis précis
et pédagogique, et les téléspectateurs nous le demandent. Vous dites que la Charte des droits fondamentaux n'a pas de valeur contraignante.
Tout à fait, c'est marqué.
Dès lors qu'elle est inscrite dans la Constitution, elle a une valeur contraignante.
Évidemment, oui.
Oui, c'est ça, ce travail d'explication pédagogique, de décryptage, qui s'adresse à des gens qui n'ont rien compris quand ils décident de s'écarter un peu du chemin qu'on a tracé pour eux. Je pense que dans le traitement médiatique de la Constitution européenne, il faut rappeler que il y a beaucoup de choses qui sont liées à la fois à la propriété des médias et à l'origine sociale des journalistes. La propriété des médias, il faut pas trop s'étonner que les médias de Serge Dassault, par exemple, soient favorables au oui, puisque Serge Dassault lui-même a commis un éditorial dans un des journaux dont il est propriétaire, Valeurs Actuelles. Vous savez, Serge Dassault, ce patron de médias qui aime les idées saines et qui a expliqué d'ailleurs sur votre antenne que les idées de gauche n'étaient pas des idées saines. Donc Serge Dassault a expliqué à Valeurs Actuelles « Je voterai oui le 29 mai ». Oui à une Europe mieux structurée et plus efficace, tant sur notre continent que dans le monde, avec une sécurité intérieure et une défense plus forte et mieux assurée dans l'intérêt de tous. Il possède un bon nombre de médias, Le Figaro, Valeurs Actuelles, L'Express, Le Figaro Magazine, et une bonne partie de la presse régionale. Et naturellement, il souhaite que ces journaux, comme il s'en est expliqué à plusieurs reprises, diffusent des idées saines. Sur ce plan, je crois qu'il est assez bien servi. Mais quand on parle de Dassault, on devrait parler aussi de Lagardère, qui possède une bonne partie de la presse magazine que ne possède pas Dassault, et qui, lui aussi, s'est exprimé en faveur du oui, qui vient de nommer, comme le rappelait Pierre Rimbert tout à l'heure, Jean-Pierre Elkabbach, directeur d'antenne, alors que Jean-Pierre Elkabbach s'est exprimé de manière à la fois visible et puis de manière, disons, un peu plus sournoise en faveur du oui à travers la manière dont il interroge ses invités. Il y a aussi François Pinault, partisan du oui. Il y a la famille Bouygues, partisan du oui, qui a offert l'émission dont on se souvient à Jacques Chirac, président de la République, émission qui avait été préparée par Robert Namias, directeur de l'information, qui venait précisément d'être nommé par le pouvoir à la tête d'une commission pour la sécurité routière, Robert Namias, dont l'épouse est la conseillère en communication de Bernadette Chirac. Donc disons qu'il y a un certain nombre de facteurs structurels, sans parler de Vincent Bolloré, à qui le CSA vient d'accorder une chaîne sur le réseau TNT,
avec une très bonne émission, je vous coupe, face à Alain Minc.
Face à Alain Minc, oui, qui nous permet de retrouver Alain Minc, l'une de ses voix et de ses signatures qu'on ne lit pas assez ailleurs. Donc vous avez tous ces médias qui existent et même ceux qui se déploient. Le CSA vient d'accorder son autorisation à des médias qui sont essentiellement ceux de Lagardère et ceux de Vivendi, qui constitue en quelque sorte une formidable caisse sonore en faveur de la cause que défendent ces patrons de presse. Sans oublier un patron allemand, Axel Gans, qui s'est engagé lui aussi pour le oui, et qui, comme nous l'a appris le Parisien il y a quelques semaines, je vous lis l'article du Parisien, président du groupe Prisma Presse, VSD, Voici, Gala, Femme Actuelle, Télé Loisirs, Télé Deux Semaines, etc. Axel Gans, qui s'étonne que les Français soient à ce point tentés par le non, s'interroge sur l'opportunité d'apporter de toute urgence à l'Europe ce qu'il appelle une contribution éditoriale pédagogique. Pédagogique, là, dont vous parliez tout à l'heure. Gans a déjà demandé par lettre circulaire à tous ses éditeurs de consulter, d'ici à vendredi, tous les rédacteurs en chef de ces titres sur l'opportunité d'une telle initiative. Chacun aurait la liberté d'adapter cette contribution aux exigences de son lectorat. Car le pluralisme, la liberté, c'est de savoir décliner les mille manières de dire oui, étant bien entendu que le oui de Gala n'est pas exactement celui de Voici.
Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Non, 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 non.
Vous avez mis en cause Jean-Pierre Elkabbach. Entendons-le, si vous voulez bien. Écoutons quelques-uns de ses extraits, notamment face à Bernard Accoyer.
Avec le groupe UMP, vous la voterez, M. Accoyer, telle quelle.
Europe 1. 4 mai 2005.
Nous voterons ce texte, mais nous ferons, comme toujours, en tant que députés de la majorité, un travail d'amélioration, d'enrichissement. Nous y sommes très attachés.
Et malgré les protestations, est-ce que vous voulez, dans ces conditions, aussi le non-référendum? Si vous gardez la loi Fillon telle qu'elle est, dit l'opposition, vous allez vers le non au référendum.
Jean-Pierre Cabache, vous êtes en train d'entretenir cette confusion.
Je suis objectif.
Objectif, voilà, Jean-Pierre Elkabbach a le mérite d'être franc sur cette question-là, comme un journaliste objectif, qui confesse malheureusement, c'est vrai, le oui. Pierre Rimbert.
Oui, pour faire d'ailleurs une description plus objective du statut social de M. Elkabbach, il faut signaler qu'il est aussi conseiller spécial auprès d'Arnaud Lagardère pour la stratégie média du groupe Lagardère. Et peut-être qu'il serait instructif de savoir que le studio dans lequel il reçoit M. Accoyer, il explique qu'il est favorable au oui, et baptiser le studio Lagardère. Il faudrait préciser aussi que, vous savez, lorsque le groupe Lagardère avait inauguré sa chaîne de télévision Match TV, Jean-Pierre Elkabbach avait expliqué, je le cite, « J'appartiens à la famille Lagardère, puisque je travaille avec Jean-Luc et Arnaud Lagardère. Je fais partie du groupe. » Donc, il enregistre dans le studio Lagardère, il fait partie du groupe Lagardère, et évidemment, quand Arnaud Lagardère lui a proposé de prendre la direction de la station Europe 1, Elkabbach a poussé un nouveau cri du cœur, après ce cri du cœur pour le oui, je cite Elkabbach, « À l'appel d'un Lagardère, je ne pouvais que répondre présent. Ce groupe est à la fois la France et l'Europe. » Et enfin, il a rassuré les auditeurs en expliquant « Je serai garant de l'indépendance éditoriale à l'égard de tous les pouvoirs, j'y serai encouragé par Arnaud Lagardère. » Fin de citation. Donc là, vous voilà tout à fait rassuré. Et je pense que c'est très emblématique du fait que les grands noms du journalisme ne flottent pas en apesanteur dans la société. Ce sont des gens qui sont socialement situés. ces contremaîtres de l'information qui sont rédacteurs en chef, qui sont directeurs de rédaction, éditorialistes.
Vous avez connu des moments émouvants, Claude Lelay, par exemple, quand les 421 tonnes se sont arrachées du sol et ont pris leur envol. À qui vous avez pensé à cet instant-là?
Oh, on n'a pas le temps de... Je veux dire que le moment le plus émouvant, c'est vraiment le moment où on lâche les freins parce qu'on dit aujourd'hui, ça y est, on part. Bon.
Lâcher les freins, c'est à quel moment?
Ben, c'est le moment où vous dites, ça y est, on a l'autorisation de décollage et on y va. Vous avez peut-être entendu à la radio le petit avion à côté qui nous a donné le 3-2-1 top pour aller.
On l'a entendu avec toute l'équipe d'Europe 1. Et vous savez, ici, nous avons pensé, comme Arnaud Lagardère l'a dit et l'a montré hier à Toulouse, à l'inspirateur déterminé de la 380, Jean-Luc Lagardère. Alors, c'est à ce moment-là, au moment de lâcher les freins, que vous avez dit, ça y est.
Oui, c'est ça. Bon, on prend les autres en photo.
Merci, Claude Lelay. Pour une fois, on peut se laisser aller.
Voilà.
Au dithyrambe, vous avez donné aux Européens le moral, l'enthousiasme et une vraie fierté. Merci, Claude Lelay, à vous et à tous vos amis.
Merci.
Claude Lelay, le pilote d'essai en chef de l'Airbus A380, avec Jean-Pierre Cabache.
Mais moi, dans le cas de Jean-Pierre Elkabbach, comme dans le cas de beaucoup de journalistes de son calibre ou de son acabit, on choisira le terme qu'on préfère, ce qui m'a intéressé, c'est sa capacité extraordinaire à manipuler le moindre événement de l'actualité en faveur du oui et contre le non. Rome enterre le pape, Jean-Pierre Elkabbach invite le maire de Rome à commenter cet événement, et le maire de Rome ne quittera pas le studio sans avoir dit qu'il espérait que la France allait confirmer sa vocation européenne. Deux semaines plus tard, il faut préciser que Rome avait élu un nouveau pape allemand et qu'à cette occasion, Bernard Guetta avait vu là une victoire de l'Europe et il s'en était expliqué dans l'Express. Jean-Pierre Elkabbach invite Bertrand Delanoë sur la question de savoir si Paris deviendra ville olympique. Et je pose la question suivante, la France mobilisée et enthousiaste pour les Jeux Olympiques, Paris 2012, pourrait l'être pour l'Europe, si je comprends bien. Et oui, Jean-Pierre Elkabbach avait bien compris. Quelques jours plus tard, il invite le patron des caisses d'épargne, qui débite son clip de communication pour dire que les caisses d'épargne vont rémunérer, d'ailleurs très peu, 4 fois moins que le taux d'inflation, les comptes des clients. Eh bien, le patron des caisses d'épargne précisera que si les caisses d'épargne peuvent faire ça, c'est grâce à l'Europe. Et Jean-Pierre Elkabbach ne lui demandera pas d'indiquer que bientôt, si les clients paieront pour leur chèque, c'est peut-être aussi grâce à l'Europe. Bref, en quelque sorte, les moindres développements de l'actualité sont mobilisés en faveur de la cause du oui. Et lorsque vous disposez de la possibilité à la fois de choisir vos invités et de leur poser les questions que vous souhaitez, vous avez un avantage qui est assez considérable et qui a en plus comme caractéristique de s'ajouter à la propagande officielle, à la campagne d'affichage, au fait que lorsque nous recevons le traité chez nous, nous avons une brochure explicative qui est en fait un bulletin de propagande. Là, on voit donc que le contre-pouvoir, au lieu d'être un contre-pouvoir, relaie déjà les impulsions du pouvoir et de tous les pouvoirs confondus.
C'est une belle bataille démocratique qui est engagée, vous pouvez pas le nier. Est-ce que vous excluez la victoire du oui, Michel Charras?
Europe 1, 12 avril 2005.
Mais Jean-Pierre Elkabbach, vous êtes pour le oui ou pour le non?
Ça vous regarde pas.
Eh ben alors,
ouais, c'est moi qui vous interroge, pardon.
Oui, d'accord. Et est-ce que vous excluez la victoire du non?
Je vous répondrai tout à l'heure. Oui. C'est vous.
Et... dans les couloirs?
Oui. Non, mais vous, non. Est-ce que vous excluez la victoire du oui?
Moi, je n'en sais rien pour le moment. Je ne vends pas de la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ce que je souhaite simplement, c'est que les Français votent en conscience. Et en conscience, qui disent
quand on dit,
simplement s'ils veulent de ce texte qui nous verrouille pour 50 ans...
C'est pas vrai, on peut en sortir.
Comment c'est pas vrai? Mais vous êtes propagandiste du oui, là.
Non, je propagandiste.
Ah, si,
vous êtes propagandiste. J'ai le texte sous les yeux.
Marquez, vous avez raison, la radio, l'agence n'est pas payée par les contribuables. C'est un problème de service public.
J'ai bon. Le texte sous les yeux.
Vous avez le texte sous les yeux? Je vois rien du tout, le texte, il fait 400 articles.
Quand vous dites, ou on dit, l'Europe est libérale, etc., grâce à cette constitution, honnêtement, la protection... et les droits sociaux vont être reconnus.
Allez,
la
propagande
sera plus depuis...
Propagande à Radio Moscou. Allez, à la grande face. Oui. Allons-y.
Le traité. Répondez. Est-ce que le traité du 29 mai est plus ou moins social?
Je ne m'intéresse pas à la question de savoir si c'est libéral ou pas. N'est-ce pas?
comment les médias parlent de du référendum, comment le camp du oui est défendu, comment le camp du non est défendu, c'est un débat dans le débat que nous vous proposons aujourd'hui, sachant que tous les observateurs s'accordent à reconnaître un déséquilibre plus ou moins grand entre le temps dévolu à défendre pour les défenseurs du oui et du non. C'est pas un cheval et une alouette, c'est un cheval peut-être pas très gros et une alouette un petit peu plus grosse que prévu, mais le déséquilibre est quand même jusque-là très important puisque il est reconnu jusqu'au CSA. On continue avec Serge Halimi et Pierre Rimbert.
Le débat, alors que les mauvais sondages se multiplient sur l'Europe et donnent le non en tête. Côté sondage, le oui va un peu mieux, selon le baromètre Ipsos Le Figaro européen.
Serge Lamy. Lorsqu'on examine un peu ce que les sondages nous disent sur les intentions de vote des uns et des autres, on sait que, par exemple, la catégorie ouvrier est massivement favorable au non, alors que les couches supérieures et cultivées votent plutôt et même assez largement pour le oui. Donc, en quelque sorte, la population des journalistes et surtout les journalistes dominants, ceux qui prennent les décisions, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ceux qui sont rédacteurs en chef, ceux qui sont chroniqueurs, ceux qui sont commentateurs, est une population qui est insérée elle-même dans un milieu social, qui a plutôt profité des évolutions économiques de ces dernières années et qui a une vision assez irénique de l'Europe libérale qui se construit parce qu'ils n'en ont pas subi les conséquences. Disons que la concurrence est libre et non faussée. C'est plus vrai pour certaines professions que pour d'autres. Dans les milieux du commentaire politique, par exemple, vous avez très peu de concurrence de l'ouvrier, enfin du journaliste marocain ou malgache qui viendrait et qui dirait « mais moi je peux faire mieux ». Là, c'est une profession où quand même les privilèges sont assez cadenassés et la concurrence est nulle. Vous pourriez trouver sans doute des Marocains aussi doués que Christine O'Krent ou Serge Julie et qui coûteraient beaucoup moins cher. Mais ceux-là, ils ne viennent pas concurrencer ces journalistes vedettes sur le marché du travail. Donc on peut dire c'est formidable, la concurrence libre, non faussée, le dialogue des cultures, etc. Parce que ces journalistes-là sont effectivement dans une position sociale qui les protège de cette concurrence et qui, au contraire, pour eux, constitue quelque chose de formidable.
Mais est-ce que vous noircissez pas le tableau, là, quand même? Parce que vous dites, ces gens socialement privilégiés qui prennent la parole et qui sont plutôt partisans du oui, dites-vous. Certains le reconnaissent, comme Jean-Pierre Arcabache, par rapport aux ouvriers qui sont plutôt partisans du non. Mais est-ce que c'est pas justement bénéficier, profiter de ce statut d'émetteur d'opinion pour pouvoir faire de la pédagogie, pour pouvoir enseigner? Et je vous propose justement d'écouter Jean-Marie Colombani au Monde, mais aussi sur France Culture.
Comment expliquez-vous, Brice Teinturier, mais peut-être c'est une question trop longue, l'irritabilité de l'opinion aujourd'hui, cet état justement d'irritabilité permanent qui fait qu'un gouvernement a autant de mal à se mouvoir, à se faire entendre, ou plus exactement, on voit bien que les arguments du non sont des arguments simples, non à ci, non à ça, bon, et que les arguments du oui font plus appel à la réflexion. Donc c'est déjà, il y a déjà un temps plus long, plus difficile, et c'est ce temps-là, au fond, qui, dans la capacité d'écoute de l'opinion, qui fait peut-être défaut à cause de cette irritabilité permanente. Comment expliquer cela?
Oui, comment expliquer ça, Pierre Rimbert, Serge Halimi?
Bon, déjà, la question de Jean-Marie Colombani, on voit que c'est pas tellement une question, c'est une longue tirade, et elle a d'ailleurs été complétée par presque tous ses confrères, hein. Je citerai Christophe Barbier, journaliste à l'Express, qui lui aussi distinguait deux camps dans le débat. Je le cite, Christophe Barbier, « Le non se nourrit de la colère, le oui de la raison ». Et donc, on va avoir, pendant tout le débat sur le référendum, cette division entre, d'un côté, la raison libérale, la raison des maîtres, et puis, de l'autre côté, les passions populaires qui amèneraient au vote non. Alors, selon les mœurs des journalistes, le vote non va être associé aux tripes, à un ras-le-bol anarchique, ça c'est les dernières nouvelles d'Alsace citées par Acrimed, à un réflexe, ça c'est Libération. Alors, vous savez, le réflexe, ça passe pas par le cerveau, c'est quelque chose.
C'est la moelle épinière.
La moelle épinière directe. Hein. À de la démagogie, ça c'est par image. Et les classes éduquées qui pensent la complexité du monde, avec de l'autre côté le populo ignare qui comprend rien à rien, ça fait 2 siècles à peu près que ce pilier de la rhétorique réactionnaire nous est resservi à chaque conflit social ou à chaque période de tension sociale. Et c'est extraordinaire parce que vous savez, les républicains éclairés daubaient déjà les ouvriers illettrés en juin 48. Après, ce seront les Versaillais contre les communards pendant la commune de 71. Et puis, les radicaux savants qui se moqueront de la populace communiste, etc., etc. C'est vraiment un axe central du discours réactionnaire, la raison des maîtres contre les passions populaires. En 92, référendum de Maastricht, même topo, vous aviez le journaliste Jean Boissonnat, journaliste à l'Expansion, qui nous expliquait que la construction européenne doit plus au raisonnement des élites qu'aux impulsions des peuples. C'est un produit culturel, nous dit Boissonnat, non un élan irréfléchi, un hoquet des masses arraché dans un mouvement de foule. Donc là encore, cette espèce de bipartition. Et vous savez, en novembre-décembre 95, on retrouvera exactement le même schéma. En 95, les cheminots grévistes ont subi les foudres du directeur de l'information de TF1, vous vous souvenez peut-être, il s'appelait Gérard Carrérou, qui maugréait contre, je le cite, un mouvement où les fantasmes et l'irrationnel brouillent souvent les réalités. Donc là encore, l'irrationnel, le fantasme, c'est l'opposition à la raison. Les grèves de 95 avaient été décrites successivement comme un coup de lune, ça c'était l'expression de Claude Imbert, comme une grande fièvre collective, Alain Duhamel, comme une fantasmagorie, Franz-Olivier Gisbert, et aussi comme une dérive schizophrénique, François de Closet. Eh bien, 8 ans plus tard, les grèves sur la réforme des retraites se déclenchent, et on retrouve une fois de plus la même chose. Claude Imbert va encourager ses lecteurs du Point à résister, je le cite, à la pression des foules impures qui défilent contre les réformes. Et Jacques Julliard, le directeur délégué du Nouvel Observateur, va stigmatiser les enseignants en colère en les décrivant, je cite, comme un corps psychotique où tous, enseignants, élèves et parents, sont des écorchés vifs, des organismes en proie à l'inquiétude, aux peurs collectives et aux fantasmes. Fin de citation. Donc vous voyez, même schéma, d'un côté le génie de Jacques Julliard, et de l'autre, la psychose populaire.
Vous avez mis en cause Claude Imbert, qui est
le fondateur et éditorialiste au Point.
Voilà, je vous propose de l'écouter avant de réagir, Serge Halimi.
Il y a aussi le problème du référendum lui-même, parce que beaucoup de gens auront pensé,
LCI, 15 avril 2005,
que un système de démocratie représentative, et non pas de démocratie directe, comme c'est le cas par l'usage du référendum, d'abord eût été plus prudent. Mais surtout, quand on a vu, et au fond, moi je les comprends beaucoup de ces gens. Vous avez un garçon qui bosse toute la journée dans une usine à côté de Nancy, il rentre tard le soir. J'aime autant vous dire qu'il a envie de boire une bière, il va pas regarder la Constitution dans le détail. À quoi ça sert les parlements? À quoi ça sert les députés? À quoi ça sert les gouvernements élus dans un système qui est très général?
Serge Halimi.
Oui, il a envie de boire une bière, pas du cognac, vous avez remarqué. Et ce qui me frappe là-dedans, c'est effectivement à quel point ces instantanées de mépris social révèlent la formidable convergence entre la bourgeoisie de droite et la bourgeoisie de gauche qu'on remarque autour de ce référendum, mais dont les exemples sont tellement nombreux qu'on ne sait pas où commencer. Jacques Lang, quand il lance son comité de soutien au oui, les présente ainsi. Tous unis sous la même bannière, celle de la création et de l'intelligence. Bon, ce qui suggère...
Quelle place ça laisse aux autres, question?
pas grand-chose, probablement celle du travail rudimentaire et de la stupidité. Georges Frêche, qui est maire de Montpellier, qui explique « Je suis pour le non avec mes tripes, mais pour le oui avec mon cerveau ».
Un Prévert, presque.
Voilà, et ça c'est un homme de gauche, mais à droite, vous avez Patrick de Vedjian, qui prétend « L'argumentation du oui a l'avantage de s'adresser à la raison ». Alors que l'argumentation du non s'adresse plutôt à l'humeur, à la sensibilité. Elle est moins rationnelle. Chez les Français, qui sont des cartésiens, en définitive, après que la passion se soit exprimée, la raison finit généralement par l'emporter. Et Dominique Régnier aussi, sur e-télévision, que certains qualifient de « oui télévision », tant la partialité de son information est évidente, qui a expliqué « On a mesuré au niveau européen que plus les individus étaient informés du contenu du texte, plus ils avaient tendance à voter pour le texte. Donc il va y avoir un travail de pédagogie. » Il y a toujours cette vision, en quelque sorte, des élites éclairées contre les foules impures, qui n'ont pas compris qu'il faut toujours convoquer pour une nouvelle séance d'explication, de redressement, de pédagogie, jusqu'à ce qu'ils en sortent, comme tous les autres, en disant oui. Et Il faut dire que depuis 15 ans, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. À chaque fois, on s'aperçoit que les résistances sont importantes. On l'a remarqué au moment du traité de Maastricht, au moment du mouvement social de novembre-décembre 95, au moment du débat sur la sécurité sociale. Et cette incompréhension de l'opinion suscite une espèce de stupeur indignée des milieux dirigeants qui, à force de ne fréquenter qu'eux, de n'entendre qu'eux, ont l'impression que le travail a déjà été fait, puisque pour eux, il est déjà fait, et qui découvrent à l'occasion de chaque référendum, de chaque scrutin populaire, que ça n'a pas encore été tout à fait mené à son terme.
Vous avez parlé aussi de Jacques Julliard, qui a bien senti cette critique possible sur les intellectuels qui prennent toujours la parole. Je rappelle Jacques Julliard du Nouveau Observateur, qui prend régulièrement la parole sur LCI.
Jacques, je vous ai aperçu au petit rassemblement Intello Showbiz que Jacques Lang a organisé en faveur du gentil, oui. On a entendu d'ailleurs beaucoup de gens, à gauche comme à droite, dire c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est l'éternelle histoire des intellectuels qui pétitionnent et qui nous font perdre du temps et qui ne vont pas dans le bon sens. D'abord, vous y étiez, qu'est-ce que vous en avez pensé?
Je trouve que c'est l'éternelle histoire des gens qui, lorsque les intellectuels se mobilisent, disent « Ah, les paillettes !» Et lorsqu'ils ne se mobilisent pas, disent « Le silence des intellectuels !» Ça marche à tous les coups. Ouais. Et tous les amuseurs publics s'en donnent à cœur joie dans ce genre de truc. Moi, je pense que si dans une affaire aussi décisive pour l'avenir de la France, les intellectuels ne s'exprimaient pas, alors je me demande quand ils devraient s'exprimer. Quant à l'aspect paillettes...
Est-ce que ça peut ébranler l'électorat du non?
Voilà. Oui, bien entendu. Mais lorsque ces mêmes intellectuels se mobilisent, par exemple, pour Florence Aubenas, c'est les mêmes, souvent. On ne dit pas que c'est des paillettes. Oui. On dit qu'il y a des intellectuels qui ont des responsabilités. Enfin, en tout cas, qui ont une espèce de responsabilité morale. Alors, franchement, c'est de la très, très mauvaise polémique. Et je dirais que c'est l'expression, notamment chez un certain nombre de chroniqueurs ou d'amuseurs de radio, d'un vieux poujadisme populiste dont ils devraient avoir honte. Et voilà ce que je dis.
Avez-vous honte, Pierre Rimbert et Serge Halimi?
Oui, dans la phrase qu'on vient d'entendre là de Jacques Julliard, les intellectuels se mobilisent. La vérité, c'est que pendant très longtemps, les intellectuels s'étaient mobilisés, pas exactement pour les mêmes qu'aujourd'hui. Quand l'intellectuel se mobilisait, c'était pour Callas, c'était pour Dreyfus, c'était pour les combattants de l'ombre, c'était pour les porteurs de valises. C'est ces intellectuels-là qui nous ont donné le respect, en quelque sorte, de la position d'intellectuel. À l'heure actuelle, à l'heure présente, on constate que leur mobilisation, elle se fait aux côtés de Chirac, de Barroso, du MEDEF, et au service de ceux qui ont déjà tout. Et c'est ça qui pose un problème. Ça n'est pas l'engagement des intellectuels en tant que tels, c'est l'engagement des intellectuels au service de ceux qui possèdent déjà les principaux moyens du pouvoir.
Pierre Hébert.
Alors pour embrayer sur le poujadisme populiste, ce qui est très remarquable, c'est que ces ténors de la presse ne comprennent pas plus que Jacques Chirac, ce qu'ils appellent eux-mêmes les angoisses des Français. Le travail en usine, le travail sur un chantier, les problèmes d'argent à la fin du mois, les questions de sécurité de l'emploi, tout ça leur est complètement étranger. Et on conçoit mieux dans ces conditions que tout ça va biaiser le regard qu'ils portent sur les classes populaires, par exemple. Pour ces journalistes dominants, l'Europe sociale, c'est une collection de phrases. Ce sont des arguments de campagne électorale, mais pour des salariés, pour des chômeurs, c'est une condition sociale qui est vécue quotidiennement. Cette condition-là, les journalistes, eux, s'en moquent. Serge Raffi, du Nouvel Observateur, a d'ailleurs expliqué...
iTélé.
Ce sont des enjeux géostratégiques qui ne se jouent pas à 3 mois, à 6 mois, mais c'est la place de l'Europe par rapport aux enjeux mondiaux dans lesquels on est, la surpuissance de la Chine dans 10-20 ans, les équilibres mondiaux. Si l'Europe n'est pas forte, je pense que malheureusement, il faut dire aux Français, oui, les problèmes sociaux... votre petit confort personnel, eh bien aujourd'hui ça doit passer en second. Il y a des choses beaucoup plus graves qui risquent de nous tomber sur la tête dans les années à venir et il faut défendre l'Europe dans ces conditions-là. Je ne peux pas dire, je vérifie.
Pour rebondir sur ce que vient de dire Serge Raffi, je pense que justement... pour défendre les questions sociales, il faut voter oui aussi. Il faut absolument avancer vers une Europe sociale et ça sera fait avec ce traité pour la Constitution européenne.
Pierre Rimbert.
Oui, c'est-à-dire que pour Serge Raffi, le petit confort personnel, il est déjà acquis. À vrai dire, il peut le laisser de côté puisqu'il se nourrit tout seul en quelque sorte.
Ce qui est aussi remarquable dans la phrase de Serge Raffi, c'est quand il évoque les choses qui risquent de nous tomber sur la tête. Ce « nous » n'existe pas. C'est toujours les mêmes têtes qui reçoivent et les mêmes têtes qui pensent pour que les mêmes têtes reçoivent. Et c'est pour ça que je me souviens au moment du mouvement social de novembre-décembre 95, Claude Imbert avait terminé un de ses éditoriaux en disant « Toute cette déprime que nous venons de vivre ». Novembre-décembre 95, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas déprimés, qui s'étaient au contraire sentis stimulés par ce qu'ils venaient de vivre. Mais le pouvoir des chroniqueurs, c'est le pouvoir de dire « nous » quand ils pensent « je ».
On les retrouve demain, Serge Halimi et Pierre Rimbert. Je rappelle le numéro du mois de mai du Monde diplomatique avec le papier d'Halimi, médias en tenue de campagne européenne. Également le journal auquel participe Pierre Rimbert, PLPL. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas. Si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission pendant 24 heures et pas plus. Technique aujourd'hui, Sophie Moreno et Patrick Henry. L'équipe de la base, si j'y suis, c'est Antoine Chao, Yann Chouquet, Pascal Le Pascariello et Christophe Imbert. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. Le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. C'était une émission menée et montée par Guy Vanctil. Dans 1 minute et 12 secondes de réclame, vous retrouvez Frédéric Bonneau et Charivari. Et nous, on se retrouve demain à 17h avec les mêmes. Salut !